peut-être qu'on est plus susceptible qu'on l'était avant, Marc. Penses-tu que c'est relié au fait que l'année prochaine, peut-être qu'on pourra avoir cette possibilité de revision?
Ben, déjà, ce qui se passe, Alain, même, commence par les reprises vidéo. On n'aime pas ça.
En jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado Compte complet est présenté par Grand Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet, Alain Huzreau en compagnie de Marc Griffin. Nous vous parlons comme à l'habitude de l'actualité dans le monde du baseball. D'abord, aujourd'hui, à l'affiche, sur notre balado, on va parler du retour très attendu chez les Braves d'Atlanta de Ronald Acuña, les pièges qui peuvent accompagner le retour d'un joueur vedette de la sorte. On va parler des Royals de Kansas City, Marc. Est-ce que c'est le temps de rappeler notre plus gros prospect et gros dans tous les sens du mot? Il y a quelques joueurs là, qui ont été retournés. C'est pas impossible. On va parler également un peu de la section centrale de la Ligue américaine. C'est une des plus fortes présentement, à la surprise de plusieurs. On va parler des Red Sox de Boston. Est-ce que le trio s'en vient? Il y en a deux sur trois là, qui ont monté. La fin de semaine, quand même, un peu rocambolesque d'Abraham Toro. On va parler des blessures qui pourraient faire mal à certaines équipes. Les Padres qui ont perdu leur meilleur lanceur. Les Orioles qui se croisent les doigts pour Adley Rutschman. Puis on va vous parler portrait. On va lever notre chapeau à Marc. Qui l'avait peut-être vu venir dans le cas de Pete Crow Armstrong. On va parler aussi des lanceurs là, qui se promènent d'un côté et de l'autre. Et on a l'impression là, que c'est... Oui, on a une demande pour les lanceurs. Ça, c'est depuis que le baseball existe. Mais cette année, j'ai l'impression qu'aussitôt qu'il y a un bras en santé là, qui est disponible, là, il y a quelqu'un qui va sauter dessus. Bref, on va parler de ça et du fait que les arbitres sont peut-être sous pression plus que jamais. Avant de partir, juste un mot pour les amateurs de cartes de baseball. Je sais qu'il y en a qui écoutent la version audio. Tout ça pour vous dire que la carte de baseball est disponible en version vidéo également à partir de mardi, officiellement, surtout la partie carte de baseball. C'est parti, mon cher Marc. Ronald Acuña qui est revenu de façon assez spectaculaire. Premier lancé de l'autre côté de la clôture dans le même match. Réussi à retirer un coureur sur les sentiers, a déployé son grand talent dès le premier match. Marc, c'est un joueur d'exception. Il n'y en a pas beaucoup là, comme lui dans le baseball majeur. Et ça fait du bien de le revoir. Là. On va parler des Braves dans quelques instants, mais un talent de la sorte, Marc, c'est toujours spectaculaire de le voir aller avec la panoplie, de qualité athlétique que ce gars-là peut offrir sur le terrain.
On a parlé beaucoup de Shohei Ohtani et pour cause l'année dernière, le fameux 50-50. Mais lui, ça a déjà été quoi, un 40-70? Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui peut faire un 50-50 dans une saison complète, là, évidemment pas cette année, là, mais je veux dire, il a le talent pour faire des choses sur un terrain qui sont vraiment spéciales. Sa puissance fait pas de doute, ses qualités offensives, son bras, ce gars-là, sa vitesse. Là, évidemment, est-ce qu'avec les genoux, on va dire un peu amochés, là, parce que ça fait les deux genoux, ils y ont passé. Est-ce qu'on va ralentir en termes éventuellement de vol de but? Pas impossible, mais connaissant le personnage, je pense qu'il y a comme une vitesse à Acuña, là, tu sais, c'est... Ouais. Effectivement, c'est un des très beaux athlètes qu'on a vu de cette génération de joueurs de baseball. Puis pourtant, il y en a des très, très bons athlètes depuis qu'on voit depuis une dizaine d'années, Alain. Mais Acuña fait partie certainement des meilleurs à ce niveau-là. Et là, le défi, c'est d'amener son équipe. C'est de faire sentir sa présence là, vraiment pour que lui fasse une différence. Les Braves se sont maintenus autour de 500. On va dire que son retour va garantir des victoires assurément là, dès le départ, mais une chose que je voulais qu'on jase de ça, Alain, c'est que faut faire attention lorsqu'un joueur de la sorte revient. Et ce que je veux dire par là, c'est que tu as l'impression, bon, Acuña revient, notre sauveur revient. Tu as peut-être des fois l'impression qu'il y a des joueurs qui font comme, bon, ouf, là, je vais pouvoir relaxer un peu. Alors que c'est tout l'inverse qu'il faut qu'il se produise. pas senti les Braves, tu sais, qui étaient vraiment là. Bon, on a le retour d'Acuña. Je sais pas, j'ai comme pas senti que. On était parti pour la gloire. Ça va peut-être prendre un certain nombre de matchs. Mm-hmm. Mais pour faire attention, dans le sens que on a l'impression que OK, ils arrivent, on peut maintenant se croiser les bras et le regarder aller. Alors que, comme j'ai mentionné, c'est pour le suivre. Il faut voir qu'est-ce qu'il fait, pour être en mesure de au contraire d'en ajouter là, pour que les Braves puissent tenter de rattraper soit les Mets ou les Phillies.
Et c'est deux grosses semaines qu'attendent les Braves, Marc. Philadelphie en début de semaine. Boston au cours du week-end au Fenway, je pense au Fenway Park, si je ne me trompe pas, je vais revérifier. Non, c'est à domicile, mais par la suite, on part dans l'Ouest, Arizona, San Francisco. Marc, je n'irai pas jusqu'à dire que la saison va jouer là, on peut jouer pour 500, sauf que ça va nous donner peut-être une indication sur la qualité de cette équipe-là.
Oui, donc tu as raison. C'est c'est une partie du calendrier. D'ailleurs, je suis convaincu que les dirigeants des Braves se disent si Acuña peut revenir avant cette partie-là du calendrier, ce qui est le cas. C'est un bon test. Encore une fois, tu sais, moi j'ai toujours dit dans le baseball moderne, tu joues 500 à la pause du match des étoiles, tu as une chance. Sauf que ça se peut qu'une certaine année, il y a des équipes qui se démarquent davantage, puis que là, ta chance à 500 commence à être minime, mais il faut que les Braves, on s'est retrouvé à 500, Alain. Oui. Et là, finalement, on a eu... Exact. Alors, mais je pense que pour le baseball, de voir un Acuña junior de retour, je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce gars fait vendre des billets, tu veux le voir jouer. J'ai juste hâte de voir son comportement un petit peu plus sur les sentiers. Parce que inévitablement, Alain, ça se peut que son comportement change un petit peu. Et c'est là qu'il s'est blessé la dernière fois là, en tentant de voler le troisième. Puis là, finalement, il y avait un jeu. Là, on a tenté de le surprendre. Puis pouf, c'est là que le genou a cédé. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que ça peut laisser des traces parfois là, dans la tête du joueur. Mais ça reste que quand même un des plus beaux joueurs à avoir joué là, au cours des dernières années.
On va parler de la section centrale, Marc. On va commencer par, non pas des Tigers, des Royals de Kansas City. Au cours des derniers jours, Hunter Renfrow a été retiré de la liste des 40, pas seulement de la formation. Il ne faisait plus rien, Marc. Je me demande s'il en reste encore dans le réservoir. Là. Malheureusement pour lui, c'était une belle carrière. Mais j'ai comme l'impression que ça sent la fin. Kevin Biggio, en fin de journée hier, on n'a pas annoncé de rappel. Ça sent, Marc, Jack Callionone. On se doutait que ce gars-là, dans la mesure où il était pour produire au niveau 2A et 3A cette année, que ce gars-là allait jouer avec les Royals plus tôt que tard. C'est un choix de première ronde l'année passée, l'Université de la Floride. Marc, il y a 14 coups de circuit depuis le début de l'année. La semaine dernière, ou il y a un peu plus d'une semaine, on l'a envoyé au niveau 3A. On va voir ce qu'il va faire. C'est 5 coups de circuit en 6 matchs. Là, on dit, il est peut-être vulnérable un peu sur les balles à effet. Là, je pense qu'il est rendu de la bouillie pour les chats. Là. On va lui faire de la place. Je pense, écoute, Biggio, si on n'a annoncé personne, j'ai bien l'impression. Au moment où on se parle, on est lundi matin, ça se peut quand vous avez regardé ou écouté ce balado-là, que Callionone ait été rappelé. Mais toujours est-il, Marc, que ce gars-là s'en vient, puis on entend déjà son pas à Kansas City.
Le baseball a beaucoup changé, Alain. Et les années où il faut laisser le gars avoir 1000 présences dans les mineurs, c'est terminé, ça. C'est dans le sens que si vous avez un exceptionnel, vous avez un gars qui peut vous aider maintenant, même s'il y a peu d'expérience. Tu regardes, Alain, tu as parlé de que c'est serré dans la division centrale. Je veux dire, là, les Tigers se démarquent un peu, mais après ça, là, les Guardians, les Twins, les Royals, c'est du pareil au même. Et on est parmi la meilleure division du baseball pratiquement. Alors, tu as besoin, tous les éléments que tu peux avoir pour gagner, il faut que tu les amènes avec toi. Fait que moi, je suis totalement d'accord. Est-ce qu'il va y avoir des retraits sur des prises? Ça vient déjà avec. Mais je veux dire, la puissance, la prestance. Tu as parlé de un gars qui a un physique imposant, à la limite intimidant lorsqu'il se présente au bâton. Moi, en tout cas, je regarde la façon dont les Royals sont bâtis actuellement. Ben, moi, je t'amènerai ça en haut rapidement. Et écoute, il y a toujours le danger. Jackson Holliday, l'année passée, a fait réfléchir beaucoup de monde. parce que ça n'a pas bien été. Rappelez-vous, Jackson Holliday, c'est son premier séjour dans le baseball majeur. Je ne dirais pas que c'était catastrophique, mais ça aurait pu laisser des traces négatives.
Ouais.
Alors, je comprends les organisations, Alain, d'être un petit peu plus prudent, puis de peut-être analyser, de suranalyser, est-ce que qui est vraiment prêt, est-ce que notre échantillon 3 est assez large, bon. Mais à un moment donné, tu sais, je veux dire, comme tu l'as dit, c'est 14 circuits, Alain, on n'est même pas au mois de juin, là. C'est impressionnant. Le gars devrait jouer dans le baseball majeur, tu l'as dit plus tôt que tard, mais effectivement, moi, je pense que ça va arriver vraiment, vraiment rapidement.
Oui, écoute, on a 32 coups de circuit, les Royals, cette année. C'est le plus petit nombre dans tout le baseball majeur. C'est pas compliqué. Dans la Ligue américaine, là, pour te dire, il y a une bonne marge. Là, la deuxième pire équipe, ce sont les White Sox de Chicago à 44. On n'est même pas proche là, des White Sox. On a cruellement besoin de quelqu'un qui est capable de frapper la longue balle.
Écoute, Alain, on n'accorde pas de points. On a accordé 177 points, mais on a un différentiel de plus 2. Je veux dire, juste un peu d'attaque, là, puis cette équipe-là, je veux dire, peut vraiment lutter avec les Tigers jusqu'à la fin. Alors, là, ton gars peut être à la portée de l'attaque. Là. Je veux dire, Caglione est impressionnant. Je veux dire, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qui retient là, présentement les Royals, mais ça doit, ça doit pas tenir à grand-chose.
Oui. Brièvement, Marc, on va parler des Tigers et des Twins, puis bon, des Guardians. Les Guardians vont bien. Ils ont perdu Ben Lively, malheureusement. Est-ce qu'on va être capable de compenser sa perte? Ils réussissent toujours à se maintenir, Marc. La relève, c'est pas aussi dominant que l'année passée, mais elle est assez bonne pour permettre de gagner des matchs serrés. Ça va être difficile de soutenir ce rythme-là, Marc, mais au moins ce qu'on a constaté dans les derniers matchs, c'est qu'il y a une montée. Quand on regarde le différentiel, là, il y a une amélioration. Donc, ça porte à penser que ça va être quand même une lutte qui pourrait permettre, est-ce que, comme l'an passé, Marc, à trois équipes de la centrale de faire des séries?
J'aurais pas parié là-dessus en début de saison, mais là, force est d'admettre que ça pourrait être le cas facilement. Et tu as raison de dire que ça va mieux. Cleveland a encore un différentiel qui est négatif, mais ça s'améliore. Tu fais bien de le mentionner, mais Lively, c'est sûr que c'est un bras. On cherche des manches. Tout le monde cherche des manches à lancer de qualité. Alors, tu perds un gars comme ça, c'est sûr qu'il n'est pas facile à remplacer. Mais quelle belle section! Tu sais, longtemps, là, ça a été une section, on va se le dire, là, qui était facile à gagner. Tu avais l'impression. Là, c'est plus le cas. Écoute, la prestation de Tarek Skubal au cours du week-end avec les Tigers de Détroit. Tu as parlé des Guardians. Les Twins qui ont été, sur une lancée extraordinaire. C'est bon pour le baseball. Là, je reviens souvent là-dessus, mais on ne parle pas de gros marché, là. On parle des marchés là, qui ne sont pas considérés comme des marchés majeurs, mais on joue de la sacrée bonne balle. Les Tigers, Alain, ont fait leur devoir au cours des dernières années. Il y a des surprises. On a parlé des Tigers récemment avec le Torkelson, avec Abby Baez. Je vous le dis, il se passe quelque chose, moi, avec cette organisation-là. Il y a quelqu'un qui a pris en charge l'aspect mental. Des joueurs, puis moi je suis convaincu que c'est un aspect important, donc tu vois que là, on est là pour gagner, on n'est pas juste là pour essayer d'essayer de faire les séries, puis être content, de se contenter de ça. On est en mission chez les Tigers, et ça pousse, selon moi, les autres équipes, Alain, à se démarquer davantage, parce que la pression que la meilleure équipe met dans la division, c'est comme, hey, écoute, on faut suivre la cadence, on peut pas s'éloigner. Fait, c'est pour ça que on a du très bon baseball dans cette division-là.
Oui, et Marc, je veux juste revenir sur Skubal et sa performance de dimanche. Il a réussi un Maddox, match complet, moins de 100 tirs. Deux coups sûrs, pas de but sur balle, 13 retraits sur des prises, son dernier lancé 103 000 à l'heure. Je veux juste dire, Marc, généralement, les Maddox, c'est pas des lanceurs de puissance, parce qu'on a besoin de beaucoup de tirs pour retirer les frappeurs au bâton, donc c'est plutôt inhabituel de voir un lanceur de ce type réussir un Maddox.
Est-ce qu'il l'a fait autour de 2 heures?
Ouais, c'est
ça. Parce qu'un vrai Maddox, là.
Ouais, c'est en ajoute une couche, là.
Ouais, non, je blague, mais t'as raison, Alain, parce que les retraits sur des prises, aussi impressionnants que ça puisse être, c'est que ça prend de l'énergie, là. Ça prend des tirs. Ouais. Écoute, tout le monde savait que Skubal était parmi les trois meilleurs lanceurs du baseball. Et là, dans cette prestation-là, je vais te dire une chose. Il n'y avait même pas l'air dans la même ligue. Il maîtrisait tout parfaitement.
Il a lancé 22 balles dans tout le match.
Donc, écoute, en tout cas, lui, là, il est déjà très, très bon, mais dans sa préparation d'avant-match de ce match-là, j'espère qu'il a retenu ce qu'il a fait puis de le refaire constamment.
C'est le temps de la question de la semaine. Une présentation de Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions antiques et classiques. Consultez de www.sylmar.ca. La question, ça porte sur la section centrale. Selon vous, est-ce que les Tigers vont résister aux Twins, aux Royals, aux Guardians? Il y a trois équipes qui courent après les Tigers. On vous propose de nous écrire sur cette question. Il faut aller sur notre site internet, comptecompletbalado.com ou sur notre page Facebook, facebook.com/comptecompletbalado.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
Alain, c'est le moment de souligner notre partenaire principal, Plan de match. C'est quoi Plan de match? C'est une boutique de baseball. Évidemment, une boutique à Boucherville. Il y en a une autre au Saguenay. Et celle, évidemment, à Boucherville, bien, cage de frappeur, cours privé, tout l'équipement nécessaire, boutique en ligne. Alors, c'est vraiment la place pour le baseball. Allez donc visiter leur boutique en ligne. C'est extraordinaire. Je vous rappelle aussi que la meilleure façon de nous rejoindre ou en fait de s'en savoir plus sur notre balado, visitez notre site internet comptecomplet.com.
On va parler des Red Sox de Boston. Pas mal de choses en fin de semaine. On a rappelé Marcelo Mayer, un du Big Three. Christian Campbell a commencé l'année avec l'équipe et Marcelo Mayer s'est amené. Il reste Roman Anthony, Marc. Il n'y aura pas de place pour tout le monde. C'est parce que je regarde un peu la position. Roman Anthony, Marc, cherche juste une ouverture. C'est un voltigeur. On a nos trois voltigeurs. Anthony, je regardais sa fiche, Marc, frappe pour plus de 3 ans. Il y a un peu de puissance. C'est une machine à but sur balle. Un MPP, vous comprendrez, au-dessus de 900. Là, on est en voiture. Est-ce que il va y avoir des transactions inévitablement? Je ne peux pas croire qu'on va être capable de garder tout ce monde-là chez les Red Sox. C'est une très bonne nouvelle, ceci étant dit. On a toutes les raisons au monde d'être ravi d'avoir trois joueurs en même temps qui arrivent. C'est juste qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va partir.
Oui, mais Alain, il faut faire attention parce que, tu sais, Bregman est blessé. Oups! Alors, t'en perds un autre. Fait qu'à un moment donné, c'est correct d'avoir évidemment cette profondeur. À long terme, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas avoir autant de joueurs qui veulent avoir un poste régulier avec l'équipe. Mais à court terme, tu sais, c'est une des raisons, Alain, pour laquelle j'avais choisi les Red Sox cette année d'en connaître une très, très bonne saison. C'est parce qu'on avait ces options-là. Les gars pouvaient venir. Bon, Campbell, c'était un très, très bon début de saison, même excellent. Là, il est dans un passage à vide, son premier passage à vide dans le baseball majeur. Alors là, on va voir comment lui peut se comporter, comment il va s'en sortir. Meilleur qui arrive avec un coup sûr dès son premier match. Il y a du talent, là. Il y a du talent, c'est clair. Puis, je vais te dire une chose, Alain. Lorsque ces joueurs-là sont rappelés, là, ces jeunes-là, ça va faire pousser les autres un petit peu plus, là. Parce que tu viens de le dire, il va y avoir une bataille à l'interne. Fait que, tu sais, moi, je me souviens, lorsque j'étais joueur, je me disais, OK, là, il faut que j'aille me positionner dans les ligues majeures, par exemple, avant que Cliff Floyd et Rondell White arrivent, tu comprends? On n'est pas fous, là. On sait que ces gars-là s'en viennent. Alors, il faut que tu essaies de. Alors, ça crée cette pression-là, si tu veux, ou cette manière de jouer où que là, il faut que je produise. Je ne veux pas que je cherche le midi à 14h, il faut que je produise. Alors, c'est pas mauvais de créer ça. C'est pas tous les joueurs qui sont bien dans ça, mais pour le bien de l'équipe, par contre, ça, c'est quelque chose de fort intéressant. T'es obligé de te donner. T'es obligé d'avoir le rendement nécessaire. Moi, je pense que ça peut créer quelque chose de bien, bien le fun à l'intérieur des Red Sox.
Marc, on va s'amuser, là. On va porter notre chapeau de directeur général. Là, Bregman revient. Bon, première hypothèse. Bregman revient. Les trois sont avec l'équipe. Là, on en avait déjà parlé, Marc. Quand Cazes s'est blessé, là, on pense pas qu'il va revenir, je pense, avec les Red Sox de Boston. Là, ça prend la place pour faire jouer ces gars-là. Au deuxième but, Campbell semble installé. Story, il y a un gros contrat. c'est peut-être une des erreurs des Red Sox. Déjà, à la signature, Marc, on se posait la question, est-ce qu'on l'a embauché juste pour calmer un peu les ardeurs des partisans? Regarde. Et moi, je pense que Rafaela pourrait être éventuellement le gars sacrifié parce que les Red Sox de Boston, c'est un bon gars. Je pense qu'au champ centre, là, il s'est très, très bien développé. Mais c'est le genre de gars qui pourrait être disponible éventuellement, Marc, compte tenu du profil de frappeur qu'il est, qui correspond pas à ce que les Red Sox ont eu depuis l'ère de Theo Epstein il y a 20 ans, autrement dit. Dans la foulée de Moneyball, là, c'est pas le profil de frappeur, même si c'est un excellent voltigeur d'ascente. À moins, Marc, qu'on aille plus gros, qu'on aille vraiment chercher plus gros et qu'on aille échanger un frappeur gaucher. Et là, je pense à Jarren Duran. Parce que Roman Anthony, s'il joue, c'est comme voltigeur, comme frappeur désigné, on le sait, pour 10 ans, ça va être Raphaël Devers.
Écoute, il y a des options, Alain. T'sais, on a vu Campbell prendre les roulons au premier but. Je ne dis pas qu'il t'en va là, assurément, mais d'avoir cette polyvalence, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Est-ce que... comme tu as dit tantôt, Alain, c'est un beau problème. Raphaël, là, ce qui est le fun avec lui, c'est qu'il y a déjà un contrat. Alors, parfois, il y a des à long terme. Fait que des équipes qui haïssent pas ça dans le sens que, tu sais, on va le chercher, on l'a à long terme. Alors, c'est quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Duran, c'est un joueur mystérieux, mais moi, je trouve que c'est un joueur de très haute qualité. Qui apporte, évidemment, contribution, là, vitesse, puissance, combativité, énergie. Il y a une belle valeur, moi, je trouve, Jarren Duran. C'est pas parfait, il y a des retraits sur des prises, mais la saison qu'il a connue l'année dernière, puis là, t'as des petits soubresauts de ce que ça peut devenir encore cette année. Moi, je pense qu'il fait partie des solutions. Mais effectivement, si tout le monde est en santé, il peut avoir, on peut être coincé. Par contre, tu sais, on a parlé de blessures, là, tu dis Bregman revient, mais on sait qu'une longue saison, il y a des joueurs blessés. Mm-hmm. L'autre aspect, c'est que, ça se peut qu'un des trois, parce que là, à un moment donné, Anthony va être rappelé, là. Mais un des trois, tu sais, ça va moins bien. C'est pas assurément. Fait que, tu sais, on peut jongler avec tout ça. À la fin de la journée, ce que tu veux, c'est de gagner. Tu veux des victoires. Tu veux trouver le moyen d'avoir les meilleurs 9 joueurs sur le terrain à chacun des matchs. Et là, après ça, tu iras avec la meilleure solution. Je suis d'accord avec toi. Le contrat de Trevor Story, c'est comme... T'as pas rapport.
C'est un boulet.
Pas d'accord dans l'équation. Mais il est là, tu peux pas vivre, tu peux pas dire, mais là, on n'aurait pas dû. On doit vivre avec, on doit faire, mais tu sais, je le regarde au bâton, tu sais, beaucoup d'élan dans le vide dans le cas de Trevor Story. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur de balle, mais lui, je pense pas qu'il fasse partie de la solution pour les Red Sox.
Sans lui, les Rockies.
En tout cas, je ne sais pas si c'est les Rockies actuellement, là, mais...
Il s'ennuie de son domicile, on va dire. On pourrait mettre ça d'une autre façon. Marc, Abraham Toro, en fin de semaine, il a fait plein de trucs. Il a frappé des circuits dans 2 matchs d'un programme double, dans chacun des 2 matchs. Il n'a pas le choix, Marc. Il faut qu'il se démarque avec les jeunes dont on vient parler. Bien, évidemment, ça a un effet domino sur tout le monde. Tu sais, Rami Gonzalez va revenir. Il y a David Hamilton qui est capable de jouer à l'avant-champ, qui apporte un élément vitesse. Bref, ça va se bousculer à un moment donné. Là, bon, en frappant de la sorte, Abraham a monté sa cote, a eu un autre bon match dimanche. Il a même lancé dans une course gagnante. Dans des circonstances un peu spéciales. Ouais. Mais c'est quand même un bon week-end là, pour le Québécois.
T'sais, Alain, contrôle ce que tu peux contrôler. Souvent, c'est ça. Il y a des affaires que tu ne peux pas contrôler dans une carrière. Donc, parfois, ton temps de jeu. Puis lorsque tu es sur le terrain, ben, essaie d'avoir un impact. Essaie de faire quelque chose qui va faire en sorte qu'on force l'organisation. C'est exactement ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Moi, là, je veux dire, Abraham Toro, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et, début de carrière extraordinaire, rappelle-toi, avec les Astros. Il a cédé après ça. Rappelle-toi, là, il était en série mondiale, il faisait pas partie de la formation, mais il était avec l'équipe, il prenait du galon, de l'expérience. Puis là, ben évidemment, part, puis là, fait le tour de quelques équipes, ça n'a pas été toujours facile. Puis là, retourné dans les mineurs. Alain, quand tu goûtes aux ligues majeures, là, tu es retourné une première fois. Puis là, tu reviens dans les ligues majeures. Il y a une Il y a un monde de différence. Puis c'est pas juste parce que tu joues dans des grands stades. Tu sais, c'est un monde de différence à tout point de vue. Les ligues mineures, il y a une raison pourquoi il y a des ligues mineures. Puis les ligues majeures, ben il y a une raison pour laquelle c'est les meilleurs au monde. Alors, et lui, là, il passe d'organisation à organisation, mineur, majeur, et il n'abandonne jamais. Ce gars-là retourne dans les ligues mineures, performe, produit, s'arrange pour être appelé. C'est pas facile ce que ce gars-là vit. Là. C'est une carrière. Il mérite amplement tous les succès qu'il a présentement parce que c'est pas évident. Tu sais, Édouard Julien est en train de le vivre un peu. Là. C'est pas facile ce qu'Édouard vit. Ouais. Mais Édouard le vit à l'intérieur d'une organisation là, présentement. Je dis pas que c'est facile. Mais imaginez le faire avec 3, 4, 5 organisations différentes.
Ouais.
C'est pas évident. Et là, ben, il s'en vient. Il y a une équipe où les attentes sont élevées. Et il fait ce genre de week-end-là. Ce qu'il contrôle, il le fait très, très bien. Donc, ce gars-là, si ça se terminait aujourd'hui pour Abraham Taureau, ça serait chapeau. Il a tout fait pour réussir, pour rester dans les ligues majeures. Alors, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Puis le fait qu'un lancer, c'est juste drôle. Moi, ce que je trouve spécial, Alain, c'est que j'haïssais pas ça, moi, comme joueur, là, ce qu'on se faisait complètement démolir, puis qu'il y avait un de nos coéquipiers qui allait lancer, puis on riait de ça. Là, je suis moins certain dans le sens que là, c'est rendu qu'on lobe pratiquement la balle au marbre. Oui. Là, je trouve que ça devient une risée. Tu sais, à l'époque, je te dis pas de faire le José Canseco puis de lancer tellement fort que tu dois subir l'opération type Tommy John. Ça, c'est l'autre extrême. Mais, tu sais, il y a peut-être moyen là, tu sais, de lancer un peu différemment. Moi, je trouve là, que là, on ridiculise l'aspect de... Le fun qu'on avait là-dedans... T'sais, Abraham a certainement eu du plaisir si on lui demandait, il disait, écoute, tu fais le fun, là, moi, je lançais des petites ballons au marbre. Pis... Mais je ne sais pas, moi, je suis un peu de moins en moins enchanté de voir la façon dont on réagit à ce niveau-là.
Oui, écoute, il y en a qui se posent la question, est-ce que le mercy rule devrait s'appliquer, ça c'est au niveau international, lorsqu'il y a un certain écart, le match prend fin au-delà de, bon, 4-5 manches, dépendant des tournois. Peut-être une réflexion à faire là-dessus. Mais comme tu dis, effectivement, là, et dans le cas d'Abraham, il a poussé ça un peu, généralement, ça arrive 50-60, et là, ça arrivait à 40 000 $.
Ouais, mais il n'est pas le seul, hein? Il n'est pas le seul.
Non, c'est assez exceptionnel. Marc, rapidement, quelques blessures qui ont marqué la dernière semaine, le dernier week-end, en fait. Ça, c'est un gros morceau. Michael King avec les Padres de San Diego, qui est un des meilleurs lanceurs de la Ligue nationale depuis 2 ans, depuis qu'on l'a acquis, des Yankees de New York. S'il fallait qu'il rate du temps et prolongé, je veux dire, tu vas remplacer des manches par un lanceur qui n'aura pas ce rendement-là, c'est clair.
Ah, écoute, Alain, c'est clair. Puis disons que les Padres ont leur défi là, au cours de la dernière semaine. Ouais. Là. Ça n'a pas été une très bonne semaine là, pour San Diego. C'est un dur coup. Moi, c'est un gars. Moi, je me rappelle dans la transaction, je trouvais que Michael King allait exploser. J'anticipais qu'il allait vraiment connaître du bon. Mm-hmm. Moi, je l'aimais beaucoup avec les Yankees. C'est un des gars que j'aimais beaucoup à l'époque. Il était avec les Yankees. Je suis pas surpris de le voir connaître du succès avec les Padres. Mais écoute, ça fait partie du sport. Les blessures font partie du sport. Lorsque tu as un joueur d'impact comme ça, là, qui te donne des départs de qualité, là, on a l'impression qu'ils sont de plus en plus rares. Là. C'est un dur coup. Puis effectivement, c'est pas un gars qui peut être remplacé par un autre carrément puis dire OK, vas-y, puis le même rendement que Michael King. Je trouve que la rotation des Padres, c'est un dur coup de perdre un gars comme ça.
Oui, et Adley Rutschman, on se croise les doigts chez les Orioles de Baltimore. Il y a quelques défis, Marc. On manque de voltigeurs. C'est pas compliqué, là. Là, c'est Laureano, qui est le dernier en liste qui est tombé. Et on a d'ailleurs mis sous contrat du baseball majeur Cooper Hummel, Marc. Il faisait partie de l'organisation des Yankees qui avait une clause dans son contrat qui lui permet de sortir. Probablement qu'il y a eu des négociations, tu comprends, non formelles avant. Mais là, chez les Orioles, c'est ça. Une saison de misère qui se poursuit sans grande conviction. Puis Rutschman, s'il devait tomber, Marc, oups. C'est le capitaine de l'équipe, pas compliqué, là.
Oui, non. Écoute, il n'y a rien. Bon, on a 2 victoires de suite là, du côté de Baltimore, mais c'est pas facile. Là. Mais moi, je te le dis, là, je sais que là, si Rothman est blessé, ça va être un dur coup, mais on a assez de talent dans cette équipe-là, moi, pour ramener ça à flot. Je ne veux pas de gagner le titre de la division, mais au moins de connaître une meilleure saison. On a l'impression que dès la blessure de Colton Calder, qui avait été si bon l'année passée, tu parlais de manque de voltigeur, tu sais. Ça a mal commencé, hein. C'est Gunnar Anderson qui était sur la liste des joueurs blessés. Puis on dirait qu'il n'a pas repris encore le genre de saison qu'il peut connaître. Puis, en fait, on pourrait revenir même à durant l'hiver où on a l'impression que les Orioles n'ont pas fait assez là, pour se donner les chances cette année. Mais bon, écoute, là, on teste vraiment, Alain, plus que la profondeur de l'organisation, on teste le caractère de l'organisation.
Ouais.
Et là, on va voir avec, tu sais, je veux dire, on regardait les statistiques dimanche là, avant notre match de baseball à la télévision. Mm-hmm. Puis, les Orioles de Baltimore, c'est déjà un différentiel de moins 95, c'est 18 et 34, alors que la plupart des analystes les mettaient parmi les deux meilleures équipes de la division Est de la Ligue américaine. Alors, on est bien, bien en deçà des évidemment des de ce qu'on prévoyait, mais j'ai hâte de voir comment ces joueurs-là, ce groupe de joueurs-là, va pouvoir changer la donne. Mais moi, j'y crois là, que ça va changer. Je pense pas qu'on va connaître une saison de misère comme ça toute la saison. Ça reste à voir. C'est sûr que ça va prendre des bras, là, éventuellement. Mais écoute, j'ai hâte de voir comment l'organisation va, autant au niveau des joueurs et autant au niveau du deuxième étage. Comment on va faire pour rendre cette saison 2025-là pas mal plus intéressante qu'elle ne l'est vraiment.
Oui, ce sera. J'ai hâte de voir la suite des choses de ce côté-là. Un des points positifs de la fin de semaine, Marc, c'est la tenue de Trevor Rogers qu'on avait acquis des Marlins. Rogers, qui avait eu une bonne année recrue, n'a jamais été capable par la suite de s'imposer. Est-ce que les Orioles seront en mesure de le ramener? Il est encore jeune, donc il y a peut-être de ce côté-là de l'aide qui pourrait s'en venir. C'est le temps de la carte de la semaine. La carte de la semaine, c'est une présentation de Cartes d'Union. Dépôt.ca, c'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles en vente sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100 %. On s'arrête sur un joueur vedette des premières années de la Ligue américaine de baseball, Rube Waddell, lanceur gaucher, reconnu pour son côté excentrique. C'est une carte de la série T. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, Marc, mais c'est la série T qui a rendu célèbre la carte de Honus Wagner.
Okay.
Tu sais, on accumule un peu d'argent, moi puis toi, depuis une couple d'années. Là, d'ici 100 ans, on devrait être capable d'en avoir assez pour se la procurer. C'est pas une très grosse carte, hein, celle de Honus Wagner, en passant. Là, les amateurs de cartes, probablement, ont une petite idée. Sinon, vous verrez tous les articles qui ont été écrits sur cette carte célèbre au fil des années. Dans le cas de Rube Waddell, donc, comme je le mentionnais, c'est une carte de la série T. C'est lié aux marques de tabac. C'est le troisième ensemble de cette série. 126 cartes au total, 8 pouces par 5 et 3 quarts. Vous ferez la conversion en centimètres si ça vous tente. Il a été élu à Rube Waddell au Temple de la Renommée. C'est en 1946. Marc, c'est un lanceur dominant comme on en a vu peu. Il y a trois noms quand on parle de dominance de la sorte. Rube Waddell, Lefty Grove et Pedro Martinez. Grove, 6 années de suite, a mené la Ligue américaine pour les retraites sur des prises et par une large marge. Tu sais, dans les années 10, tu as vu des images, Marc, puis je me rappelle, à un moment donné, tu disais, on lance pas à 90 avec un élan comme celui-là. Donc, c'est un style de baseball qui était complètement différent. Il y avait quelques lanceurs qui lançaient plus fort que d'autres. Waddell était un de ceux-là. Et Marc, c'est des saisons de plus de 300 retraits sur des prises. Ça se voyait pas à cette époque-là. Mais il était vraiment dominant et à l'âge de 30 ans, sa production a baissé de façon assez drastique. C'est pas seulement l'âge, Marc. Il y a eu des problèmes de consommation et des problèmes de santé mentale. C'était un cas particulier. C'est un gars qui allait dans des institutions spécialisées. Évidemment, l'expertise en santé mentale n'était pas reconnue comme elle l'est aujourd'hui. Il est décédé jeune, d'ailleurs. Juste donner une idée, Marc, lui avait une obsession envers les camions de pompiers. S'il en voyait, il partait à courir après des camions de pompiers. Donc, il y avait de sérieux problèmes. Dans le baseball contemporain, Marc, il y a des joueurs qui ont eu des problèmes de la sorte. Bon, je pense à Rod Scurry qui avait des hallucinations. Évidemment, c'était doublé par des problèmes de consommation. Eric Shaw, Les deux sont décédés d'un jeune âge. Les deux ont eu des problèmes de consommation qui ont exacerbé leurs problèmes de santé mentale. Heureusement, aujourd'hui, on est plus ouvert à en parler. Mais dans le cas de Rube Waddell, Marc, je pense, avec raison, il a été intronisé au Temple de la Renommée. Il était un des défenseurs les plus dominants de l'histoire du baseball. Je pense que c'est pas de mauvaise chose de lui lever notre chapeau. Peut-être de se rappeler là, qu'à une certaine époque, mais peut-être qu'on prenait moins soin de ce genre de problème qu'aujourd'hui. Peut-être une leçon à retenir. C'est temps de notre chronique Baseball Bob. C'est notre auteur de Trois-Rivières, notre bon ami Bob McDuff, auteur de livres pour enfants avec le thème du baseball au centre de ses histoires pour les jeunes. On vous invite à aller au www.baseballbob.ca. Vous initiez à la fois au baseball et à la lecture et faire place à votre imagination. Donc, c'est un rendez-vous pour les jeunes et pourquoi pas vous initier à la lecture du même coup. Notre profil de la semaine, Marc, c'est une bonne heure pour la Ligue nationale pour le War. Et non, je pourrais parler de Pete Alonso, je pourrais vous parler de Shohei Ohtani. Non, je vous parle de Pete Crow Armstrong. Et Marc, avant que la saison commence, tu l'avais dit, on va surveiller ce gars-là. Effectivement, il nous avait épaté par son jeu défensif l'année passée. Il nous avait épaté par sa très grande rapidité. Cette année, Marc, c'est complètement autre chose. Là, il a déployé une production offensive. Je ne sais pas si dans tes rêves les plus fous, tu l'avais prévu. C'est un MPP près de 900. Il a 14 coups de circuit. Ben chapeau Marc, je vais te laisser parler de Pico Armstrong parce que vraiment quand la saison a commencé, c'est un des noms que tu avais soulevé comme quelqu'un qui pouvait effectivement exploser.
Ben écoute, premièrement j'aime l'ensemble du joueur dans le sens que c'est un gars qui a des fibres rapides, un gars qui a un sens du jeu, un gars qui... mais surtout c'est que mécaniquement je trouvais à l'attaque, je regardais ses présences au bâton, les retraits sur des prises. Puis, tu sais, parfois, Alain, un petit ajustement à gauche, à droite, puis oups! Tu sais, je voyais qu'il y avait, de l'espace pour, tu sais, s'améliorer. Comme je le voyais pour Gunnar Anderson lorsqu'il est arrivé, tu sais, dans le sens que je voyais tout de suite que ce gars-là pouvait, selon moi, être un des joueurs dominants du baseball. Je suis pas parfait, là, ceci étant dit, là, j'en ai des joueurs que j'ai déjà vus que je trouvais qu'ils avaient de l'allure puis que finalement ça et tout l'inverse. Mais Pete Crow Armstrong, c'est ça. C'est dans son attitude. À un moment donné, on avait parlé, Alain, dans un de nos balados. La ligne fine entre l'arrogance et la confiance. Mm-hmm. Lui, il joue dans ces eaux-là. T'sais, c'est un gars là, qui démontre une belle confiance, à la limite un petit peu d'arrogance, mais il le fait, dans le respect, là, pour l'instant du moins. C'est le genre de joueur, Alain, qui amène une énergie où tu as le goût de te défoncer aussi. Tu le vois aller et tu dis, écoute, il me semble qu'il nous traîne dans la bonne direction. Alors, pour toutes ces raisons, moi, je trouvais que c'est un gars-là qui allait nettement s'améliorer. Là, tu m'avais dit qu'elle allait dominer avec le World de cette façon-là. Non, mais qu'elle allait pouvoir avoir un impact dès cette année avec les Cubs, oui. Puis je suis content de voir que ça se réalise, mais je suis surtout content de voir que l'équipe des Cubs joue ouais. Bien autour de lui. Puis, tu sais, tu t'appelles un Dansby Swanson, t'es un vétéran, mais tu vois je vais l'appeler le kid, mais tu vois un jeune comme ça là, ouais. qui tu rajeunis comme vétéran, puis tu dis, écoute, on embarque dans ça, puis on y va. Puis, fait que, pour toutes ces raisons, moi, j'aime bien ce que je vois de Pete Crow, je crois.
Oui, c'est un choix de première ronde, Marc, en 2019. Non pas des Cubs, mais des Mets de New York. On avait échangé en 2021. Ça, c'est pour obtenir Javier Baez en fin de saison.
C'est alors, hein, pour avoir un joueur de qualité. ça prouve qu'il faut revenir parfois sur les transactions, hein?
Écoute, sur le coup... Écoute, c'est contre un joueur des ligues mineures, mais avec le recul, est-ce qu'on le prendrait à notre équipe chez les Mets? Oui, mais à ce moment-là, on pensait que l'avenue de Baez était pour donner de l'énergie aux Mets. Et enfin,
ben, Alain, c'est pas pour rien. Pas pour rien, parfois que des équipes vont hésiter à sacrifier l'avenir pour amener un vétéran qui va les aider maintenant, parce que on en a pas mal d'exemples. Tu sais, Shields contre Fernando Tatis Jr., c'est un autre exemple. Tu sais, on a besoin d'un lanceur, on va donner un joueur des ligues mineures, puis là, pouf. Fait que ces histoires-là, faites de jurisprudence, puis que là, à un moment donné, tu te dis, wow, un instant, là, on est-tu mieux de garder notre joueur? En tout cas, ça pour dire que c'est une belle histoire.
Récemment, Marc, tu peux parler de Brandon Marsh contre Logan O'Hampi. Tu sais, tu regardes ça, Real Muto s'en vient joueur autonome l'année prochaine. Oups, O'Hampi, peut-être qu'on l'aurait pris avec notre équipe, mais quand on a acquis Brandon Marsh, on avait un besoin urgent au centre. Marsh jouait pas, ou peu, avec les Angels, puis on pensait qu'il était pour combler le vide. Il l'a fait, on s'est rendu en série mondiale. Alors, Marc, donc c'était le but de l'exercice au moment où on a fait la transaction.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Marc, les lanceurs, ça fait 100 ans et, que les équipes, on dit toujours la même chose, les joueurs sont trop payés et il n'y a pas assez de lanceurs. Évidemment, on le sait, les blessures aux lanceurs, on n'a rien réglé. Et on regarde l'allée des Dangereuses, c'est pas juste des Dangereuses, mais des Dangereuses aussitôt qu'il y en a un disponible encore cette semaine, Lou Trevino avec les Giants, Chris Stratton vient d'être libéré par les Royals, Stratton vient de signer un contrat, tout de suite ça va avec les Dangereuses, va se retrouver avec la formation des 26 joueurs, moi je m'attends à Genesis Cabrera qui va se retrouver avec une équipe. Matzek visiblement n'a pas convaincu assez de monde, est-il encore en train de négocier? C'est à suivre. Donc, la perte d'Alvarado avec les Phillies. Il y a quand même, Marc, on a encore Grégory Soto puis Matt Strom comme gaucher. À court terme, ça va faire l'affaire. On aime en avoir un troisième. Ce que je veux dire, c'est que ça se promène. Puis toi, tu as fait la remarque que ça semble pire que les années précédentes.
Écoute, Alain, je veux dire, on est juste au mois de mai. Quand tu arrives au mois de juillet, tu as des bras fatigués, tu as des une couple de blessures, puis les gars qui sont surutilisés. C'est plus normal que ça arrive. Là. Fin juillet, début août, là, tu vois qu'il y a une espèce de parade de releveurs. Mais pas au mois de mai.
Oui.
Tu sais, là, on est au mois de mai, Alain, puis tu as raison. Là, aussitôt qu'un joueur qui devient disponible puis qui a l'air d'être pas pire en santé, pouf! Je veux dire, c'est... Ouais. Et, on parle des Dodgers, mais écoute, on fait le tour des équipes. Là. Il y a une rotation incroyable. En tout cas, je trouve que la quantité oui. là, de joueurs qui deviennent disponibles puis qui changent de camp puis que, ou des joueurs qui sont rappelés du 3A, qu'on oui. essaie 2-3 matchs, qu'on retourne parce qu'on va en rappeler un autre. Parce que ça fait... Écoute, oui. je trouve que le changement au niveau des releveurs, là, je précise au niveau des releveurs, moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça.
Ouais.
Et surtout pas tôt de même dans la saison. Mais Alain, en fait, on ne devrait pas être surpris. Regarde les partants qui vont de moins en moins loin. On donne de plus en plus de tâches aux releveurs. Puis on leur demande de faire ça 4 à 5 jours semaine.
Mm-hmm.
Je ne suis pas sûr que physiquement, c'est prenable. Ouais. Tout ça. Alors.
Ouais.
Quand tes partants allaient 7-8 manches avant, là, tu pouvais contrôler la santé de tes bras des releveurs bien facilement. Ouais. Et là, c'est 5 manches, puis ouais. on est content du partant. Ça découle, là. Il y a des raisons pour lesquelles ça arrive. Puis moi, je suis convaincu que ça commence par le fait que les partants ne lancent pas assez de manches ou lancent beaucoup ouais. moins de manches.
Ouais.
Et que là, ça découle sur les releveurs qui, eux, à un moment donné, ne sont pas capables de suivre la cadence et pour cause. Et pour cause.
Oui, exactement. Marc, les arbitres. Les arbitres, l'année prochaine, ça se pourrait que le robot arrive. Ce ne sera pas permanent. On va probablement utiliser le même mode operandi que dans le baseball mineur, c'est-à-dire demande de revision avec la zone de prise électronique. Je ne sais pas s'il y a plus de tension. Ce qui nous amène à parler de ça, Marc, c'est même pas une décision derrière le marbre. C'est juste qu'on sent de la tension. On sent de la tension. Je ne sais pas si c'est les gérants aussi qui ont de la tension, c'est sûr qu'ils en ont. Avant de parler de la zone des prises, il y a une décision qui nous a fait un peu sursauter. C'est vendredi dernier dans le match entre les Mets de New York et les Dodgers de Los Angeles. Une obstruction envers un joueur en défense qui obstruait la vue d'un coureur. Moi, je n'avais jamais vu ça.
Moi non plus. Évidemment, dans le livre des règlements, il y a une règle qui stipule qu'effectivement, si un joueur en défense, je me souviens pas le terme exact si on traduit, là, mais si on nuit là, à ce qu'il voit le jeu, là, je simplifie ça, là, l'arbitre peut appeler une interférence à ce niveau-là. Et là, on va chercher ça loin. sérieusement, Alain, là, ça, là, je trouve que là, on est allé, on l'a exagéré. L'arbitre, en plus, sur le jeu, l'a déclaré tout de suite. Ouais. Et la réaction de Monty dit tout, là, en voulant dire, ben. Alors, dans ce cas-ci, c'est qu'une balle frappée au champ droit. Alors, il y a un coureur au troisième, la balle est frappée au champ droit. Et là, Monty, qui joue le troisième but, ben lui, évidemment, a réagi sur la balle frappée, mais ça vient se placer. Mais il n'est pas collé sur le coureur, là. C'est juste qu'il vient se placer pratiquement, bon, vis-à-vis. Mais de toute évidence, avec la réaction de Monty, il n'a pas fait exprès, là. Là, tu vas me dire, c'est pas grave, l'interférence, t'es pas obligé de faire exprès ou non, là, mais... Et là, ben, il semble-t-il que là, le coureur a commencé à, bon, à bouger un peu pour voir son angle, puis bon, l'arbitre a appelé l'interférence. Mais, Colin, aidez-vous, les gars. Aidez-vous là, à ce que les arbitres soient... Les arbitres sont importants. Ils font partie du jeu, puis c'est correct de manquer des décisions. Ça fait partie du jeu. Ça met de l'excitation. Ça met... T'es soit frustré ou pas, puis je comprends ça. Puis il y a des décisions que c'est pas facile. Puis là, les reprises vidéo qui viennent, qui s'ajoutent à ça, puis c'est pas évident parce que ça fait mal paraître des fois l'arbitre. Je comprends tout ça, là, mais arrêtez de nous sortir des règles qui arrivent du champ gauche, de nulle part, qui existent peut-être depuis X nombre d'années. Je comprends que si le joueur en défense, il se place devant, puis tu sais, qu'il commence à bouger pour obstruer, bon, là, à un moment donné, on exagère. OK, là, on l'appelle. Et dans un jeu comme ça, là, je sais pas, Alain, je trouve qu'on s'aide pas. Je trouve qu'on s'aide pas. C'est mon opinion personnelle. Peut-être des arbitres vont dire, voyons, Marc, t'es tout croche là-dedans, ça n'a pas d'allure. Je fais juste aller. Le gros bon sens, des fois. Je sais que c'est écrit, mais il y a le gros bon sens. Puis des fois, on peut-tu utiliser cette manière de penser-là pour pas que on parle constamment négativement des officiels. Tu sais, je veux dire. Ils sont bons, ce sont les meilleurs au monde. Ils vont en rater, absolument, mais d'arriver avec des obstructions de la sorte ou des règles qui sortent du champ gauche de même, j'aime moins ça.
Écoute, on va revenir aux décisions des officiels derrière le marbre et le fait que peut-être qu'on est plus susceptible qu'on l'était avant, Marc. Penses-tu que c'est relié au fait que l'année prochaine, peut-être qu'on pourra avoir cette possibilité de revision?
Ben, déjà, ce qui se passe, Alain, même, commence par les reprises vidéo. On n'aime pas ça. C'est sûr que tout le monde, quand je dis tout le monde, là, je pense la planète baseball, que ce soit le partisan, le joueur, le gérant, tout le monde veut la bonne décision, on voit la meilleure décision.
Ouais.
Puis même là, des fois, on peut avoir des doutes.
Ouais.
Parce que la décision qui est rendue tient à beaucoup de force dans ce qu'on voit en reprise vidéo. C'est sûr que c'est pas l'idéal. Ça, je veux dire, un arbitre peut très mal paraître. Là. C'est pas impossible, Alain, qu'on voit parfois 4 jeux au premier but où il y a 4 reprises, puis 4 fois on renverse la décision. Là. Le gars paraît pas bien. Moi, je pense par contre qu'à un moment donné, Alain, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec les officiels, mais il faut parfois, j'aimerais ça parfois que, pas qu'il y ait une discipline, mais que. Puis je ne sais pas ce qui se passe là, derrière les portes closes, mais tu sais, je regarde. Revenons rapidement là, sur le cas de Walker Buehler, là, où l'arbitre a vraiment, là, selon moi, là, provoqué les choses.
Ouais.
Y a-tu moyen qu'on. Je ne sais pas. Je ne veux pas m'embarquer dans quelque chose que je ne connais pas. Là, je fais juste. De fan de baseball, puis je me dis. Il faudrait que les officiels, des fois, je sais que c'est pas facile, puis, mais qu'on en garde un petit peu plus à l'intérieur, puis qu'on essaie de discuter peut-être un peu plus, alors que on sent souvent que c'est une confrontation, là. Alors qu'on on pourrait être plus en mode solution parfois ou en mode discussion.
Oui, mais écoute, il va y avoir des changements de toute façon, là, ça s'en vient plus tôt que tard là, derrière le marbre. Ce qu'on est en train de vivre au niveau 3A depuis quelques saisons, écoute, on va le voir dans le baseball majeur. Je pense que ça va ajouter, moi. Je pense que ça va ajouter. On n'aura pas un robot complet, mais quelque chose d'hybride. Je pense que ça va plaire aussi aux spectateurs. Marc, il y a eu des réticences, mais l'importance d'avoir la bonne décision va prendre le dessus, je pense, sur les autres considérations éventuellement.
En tout cas, je suis content de t'entendre dire ça, toi qui es un...
un traditionnaliste.
solide, là. Mais je pense aussi, je suis d'accord avec toi, que ça peut amener quelque chose d'autre. Parce que ce qu'on entend, Alain, au niveau des joueurs, des spectateurs, des dirigeants, peut-être pas toujours des officiels, ouais. là, mais c'est qu'on apprécie le... C'est rapide, on perd pas de temps. Et le moment choisi devient aussi peut avoir un impact parce que si on la décision n'est pas renversée, là, tu perds une vie alors que tu en as juste deux. Bon, fait qu'il y a un petit jeu à ça aussi. Moi, je pense que ça peut devenir belle fun.
Ouais. Ouais.
Mais on verra comment les officiels se comporteront à ce niveau-là.
Oui, et comment les équipes vont les utiliser, hein, ces demandes de réclamation? Peut-être à certaines occasions, il y a même des consignes. Vous ne faites pas de réclamation au cours des trois premières manches. C'est le genre de choses, Marc, qu'on pourrait... C'est intéressant de voir comment, effectivement, on va s'ajuster à ce genre de règles-là. L'horaire des matchs, cette semaine, est une présentation de Lester. C'est le maître du smoked meat et des hot dogs depuis 1931. Que ce soit pour un match, une réunion entre amis, un barbecue, un festin en famille, Lester est toujours au rendez-vous, disponible chez votre épicier préféré. Il n'y a pas de match mercredi, donc lundi et dimanche. Lundi, 20h30. C'est pas une erreur des Marlins. On verra Otto Lopez contre les Padres de San Diego qui en arrache à l'attaque, même si c'est une équipe qui est quand même très intéressante. Ils ont plusieurs joueurs de très grande qualité. Donc, c'est un match qu'on vous présente à RDS 2. Et dimanche, ben ça, c'est à ne pas manquer. Yankees-Dodgers, c'est la reprise de la dernière série mondiale. Certains croient qu'on va les revoir encore cette année. Rien n'est moins sûr. Il va falloir d'abord passer au travers d'autres excellentes équipes. Donc, on sera au début du mois de juin, le 1er juin, dimanche, compté de 19h à RDS 2. Voilà ce qui complète ce balado. J'espère que cela vous a plu. On se souhaite une excellente semaine de baseball. À très bientôt.
Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville et au Saguenay. Fiers partenaires de votre passion.